Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul. Il faut marcher. Marcher tout seul. C'est alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul. Marcher. Marcher tout seul. Marcher tout seul.
Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission À nous le futur. Mon nom, c'est Claude Saint-Georges. C'est beau et frais, hein, n'est-ce pas? Et Il faut marcher de Pierre Flynn. Je pense que ça n'a pas encore été chanté, ça, à Star Academy. Ça serait le fun, peut-être un jour. Alors, j'ai écouté Les gars du 9. Félicitations, c'est une bonne émission. Puis hier, j'écoutais Les filles du 16. C'est intéressant aussi. Fait que mon émission, je me disais ce matin... Ça s'inspire de Seligman, finalement. C'est un psychologue qui a écrit sur les forces, 24 forces pour s'auto-réaliser. Fait que, il appelle ça l'opti-réalisme. Fait que moi, finalement, je crois que c'est ça, de l'opti-réalisme. Le réalisme, bon, je m'inspire des gars du 9 qui parlaient de l'accident de l'hélicoptère militaire avec l'avion civil. Alors, de façon réaliste, moi, je crois que c'est un symbole de ce dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire que l'économie militaire et la présence militaire états-unienne nuit à la société civile. C'est ce que Seymour Melman dit dans une vingtaine de livres, cet ingénieur industriel qui a commencé son premier livre avec Peace Race, The Peace Race, la course à la paix. Et puis qui a écrit, par exemple, The Depleted Society, dont j'ai parlé, Profits Without Production. Son dernier livre, c'était Démilitariser et conversion de l'industrie militaire et des fins civiles. Fait que, il dit que, tu sais, les États-Unis sont détériorés complètement parce qu'il y a trop de dépenses militaires. L'économie américaine, c'est plus de 51% militaire. Et puis, il ne reste plus d'argent pour réparer les infrastructures. Ça, c'est Seymour Melman qui dit ça clairement dans son livre « Démilitariser ». J'ai compté une cinquantaine de sections d'une société pour lesquelles il n'y a plus d'argent, disait Melman. Alors, je trouve que l'accident hélicoptère militaire et avion civil, c'est un peu un symbole de ça. OK? Je commence avec ça. Et puis, dans mon émission d'aujourd'hui, on va dire que il y a deux grandes idées, là, entre des plus petites. C'est le paradigme de l'abondance qui se heurte au paradigme de la rareté ou de la pauvreté. Et puis l'autre idée, c'est la réforme de la démocratie au Québec. Je ne m'intéresse pas à celle du Canada pour l'instant. Et puis on sait que les dictatures iraniennes, chinoises, russes... et autres. Eux autres, là, ils veulent se démarquer de notre démocratie, puis même de notre définition des droits de l'homme. Bien, c'est correct. Faites ce que vous voulez, on va s'entendre, finalement. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire à part de ça? C'est que, justement, le monsieur qui fait une autre émission sur les sports, et puis il tripe beaucoup sur la ville de Naples, bien, c'est félicitations. Je trouve que tu communiques beaucoup un enthousiasme par rapport au sport et à Naples, là, qui est l'endroit où un grand joueur de soccer, je ne me souviens pas de son nom, le Maradino, en tout cas, est là, puis Naples est plein de peintures consacrées à cet artiste gymnaste. Mais moi, je voulais dire que je suis allé à Naples et je n'ai pas vu ça. Mais c'était en 1972. Probablement que ce n'était pas encore cet esprit-là de honorer le grand joueur de soccer, Maradona. Fait que j'ai cependant mangé une bonne pizza là-bas. Et puis, ce que je voulais dire aussi... J'ai appris quelques chiffres là, hier et cette semaine, là. Le PIB mondial, c'est 80 000 milliards de dollars. L'ensemble des multinationales, Buckminster Fuller appelle ça GUNCH, Gross Universal Cash Haste. Ça vaut 20 000 milliards de dollars et ça fait 1 000 milliards de dollars de profit par année. Mais ça n'existe pas. Là. Ça existe, mais ce n'est pas documenté à part du livre de Buckminster Fuller qui s'appelle « Grunt of Giants ». Et puis, le budget militaire mondial, selon moi, c'est 2,5 trillions, c'est-à-dire 2 500 milliards de dollars. Puis ce sont les États-Unis qui en dépensent le plus, c'est à peu près 1 200 milliards. Et puis, ce que j'ai appris aussi, c'est du Rocky Mountain Institute, j'en ai déjà parlé quelques fois. Si l'efficacité énergétique mondiale était mise de l'avant, les profits seraient de 6 000 milliards de dollars. OK? Et tout ça, bon, ben, c'est ça, le fait qu'il y a eu un article du Rocky Mountain Institute, c'était les pétro-États à comparer aux électro-États. Fait que nous, le Québec, on n'est pas là-dedans parce qu'on n'est pas un État, tu sais. On n'est pas un pays, d'après eux, là. Dans les faits aussi non plus, là, mais j'espère que ça va arriver. Si on le souhaite, si la souveraineté du peuple se prononce pour. Mais donc, on passe en dessous du tapis. Mais si on ne passait pas en dessous du tapis, je pense qu'on serait un pas pire pays électrifié. Mais pour l'instant, qui gagne entre les pays, l'État électrique ou le pétro-État? Mais c'est la Chine qui a de l'avance. Selon un article du Rocky Mountain Institute, cette infolettre à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement. Et puis, je voudrais vous dire, avant de continuer là-dessus, là, que Hélène Keller, cette jeune enfant sourde, muette et aveugle, il y a eu un film à propos d'elle par Arthur Penn. J'en ai parlé avec notre chroniqueur cinéma, Alexandre Tardif, ici, là. Il ne connaissait pas le film, mais il connaît bien l'auteur. Moi, j'ai vu ça en 1964 à peu près. C'est Miracle à Alabama. En anglais, c'était Miracle Worker. C'est un film extrêmement intéressant. Il s'agissait donc d'une fille sourde, muette et aveugle qui était complètement sauvage. C'est vu son état, là. Et puis, les parents étaient découragés. Ils essayaient de l'éduquer, mais impossible. Fait que là, ils ont fait venir une éducatrice spécialisée qui s'appelait Annie Sullivan. Et le film montre cette histoire-là de l'éducation de Hélène Keller par Annie Sullivan. Alors, c'est extrêmement émouvant, n'est-ce pas? Donc, Hélène Keller, elle est jeune, sourde, muette, aveugle, et elle fait à sa tête. Et puis, elle est assez forte. Et Annie Sullivan, elle aussi avait des problèmes de yeux, mais elle avait des lunettes, puis elle voyait. Fait qu'elle se battait souvent, tu sais, même un conflit physique, là, avec Hélène Keller, parce qu'elle essayait de lui faire entendre raison, et Keller se défendait. Puis, à un moment donné, il se passe quelque chose dehors, là. Les deux se battent, et puis souvent, tu sais, Annie Sullivan, la professeure, gagnait par épuisement de Hélène Keller. Fait qu'à un moment donné, Hélène Keller est épuisée, puis Annie Sullivan l'amène à une pompe à eau, parce que là, on est au début du 20e siècle, peut-être, c'est ça, là. Fait que là, elle a l'idée spontanée de pomper de l'eau dans la main de Hélène Keller. Puis Hélène sent de la fraîcheur, et Annie Sullivan écrit dans la main avec le braille « O, E-A-U ». Et finalement, Hélène Keller comprend qu'il y a un lien entre eau et le liquide qu'elle a dans sa main, tu sais, qui lui apporte de la fraîcheur. Alors, si vous lisez la biographie d'Hélène Keller, elle ressent un éveil extraordinaire. Et elle apprend à lire et finalement, elle va à Harvard et puis elle devient écrivaine. Et puis, Annie et Hélène sont amies toute la vie. Elle est demeurée sourde, muette et aveugle, c'était une condition de naissance, mais elle a appris à parler, puis elle parlait comme ça, mais elle se faisait entendre. Fait que, bon, là, ça m'a fait, ça m'a amené. Ah oui, ce que je veux vous dire avec ça, c'est que pour moi, Hélène Keller, c'est un symbole des potentiels humains et de la réalisation des potentiels humains, autant sur le plan individuel, et moi, je dis aussi, ça peut être que sur le plan social et mondial. Donc, si vous m'avez écouté depuis mes 80 émissions là, que j'ai faites déjà, puis il m'en reste, je dirais, une quarantaine avant que j'aie terminé. L'humanité a tout ce qu'il faut pour bien vivre, tu sais, et puis le Québec aussi. et sans guerre et sans nuire à l'écologie. Donc, je vais vous dire que, selon Buckminster Fuller, ça m'a amené à tout ça, à ces réflexions-là. Là. Je reviens à son livre « Critical Path » que j'ai lu 12 fois, puis que je m'apprête à relire une troisième fois, 13e fois. Il y a eu une étude faite en 1960. Buckminster Fuller a demandé à un géologue de faire un calcul pour évaluer ça coûte combien à la nature pour faire un gallon de pétrole. Fait que ça prend des calculs, la pression, tu sais, combien de pression de la Terre, combien de chaleur, parce que vous savez que, tu sais, c'est les radiations solaires qui font pousser les arbres meurent, ça s'en va dans la croûte terrestre, ça fait du charbon, puis finalement, ça devient du pétrole ou des molécules d'hydrocarbones avec des milliers, des millions d'années. Fait que le résultat du calcul, c'est que ça coûte un gallon de pétrole, si on calcule le travail de la Terre pour le faire, ça valait en 1960 $1 million le gallon. Fait que là, Buckminster Fuller disait que, du point de vue de la nature, tout le monde qui va travailler, tu sais, qui prend son auto pour aller travailler, ça dépense l'équivalent de 500 trillions de dollars. Ça veut dire 500 000 milliards de dollars à chaque jour pour aller travailler. Alors, du point de vue de la nature, disait Fuller, ce serait plus rentable de payer chaque personne qui va travailler 400 000 $ par jour pour rester à la maison. Faire ce qui vous tente. Vous pouvez marcher, aller en vélo, tout ça, là, si vous n'en pouvez plus. Mais puis vous pouvez même, c'est rare quelqu'un qui dépense plus de 4000 pièces par jour. Fait que ça serait plus rentable pour la Terre de payer du monde à 400 000 $ par jour que d'aller travailler. Bon, il est plus loin que ça, là, il réfléchit, tout ça, là, il dit finalement dans un autre livre, le manuel d'instruction du vaisseau spatial Terre, que ceux qui ne travaillent pas, ils pourraient avoir une bourse à vie pour penser. Puis ça rapporterait beaucoup à la société, parce qu'il y aurait des idées nouvelles intéressantes. Puis si tu ne sais pas quoi faire, tu vas pêcher. Juste à pêcher, taquiner le poisson, tu peux avoir des idées. T'sais. Fait que finalement, moi, ce que je me suis dit, mais ce dont je parle à mon émission, c'est le manuel d'instruction du vaisseau spatial Terre. T'sais, et le Québec, c'est local, c'est à quelque part sur le vaisseau spatial Terre. Puis j'en parle aussi. Donc, la réforme de la démocratie au Québec, c'est quelque part sur le vaisseau spatial. Et puis, ce dont je veux parler surtout aujourd'hui, c'est-à-dire au début, c'est le vaisseau spatial Terre, en gros, en général. C'est parce que quand j'ai parlé du pétro-État, c'est les États-Unis, puis de l'électro-État, c'est la Chine, puis la Chine a de l'avance sur les États-Unis, mais on ne pense pas au monde entier. Le Rocky Mountain Institute n'a pas parlé de ça. Il y a juste Buckminster Fuller qui pensait au monde entier. Fait que dans le livre « Crunch of Giants », il y a une liste d'à peu près 18 artefacts, parce que lui, Fuller, croyait en les artefacts plus qu'en la politique. Alors, il a inventé à peu près 18 artefacts. Et j'ai une liste ici, là, comme le Fly High Dome, ça, je vous en parlais un peu tout à l'heure. La tenségrité, ça, c'est le principe de tension et... Tension-compression. Alors, le dôme géodésique de la ville de Montréal, sur la Terre des Hommes, là, ou l'île Notre-Dame, si ça tient debout, là, c'est parce qu'il y a, c'est les vecteurs des triangles qu'il y a de la tension-compression. Fait qu'il a inventé aussi la Dimaxion House, la Dimaxion Map, la carte géographique Dimaxion. Vous pouvez regarder ça dans vos Internet. Et puis, il a inventé le World Games, le contraire du War Game, parce que les militaires font des War Games pour mesurer comment tuer le plus de monde possible, le plus vite possible. C'est pas au moindre coût, ça les dérange pas. Ça peut être au plus grand coût. Fait que Fuller a inventé le World Games, c'est comment arriver à la réussite de l'humanité, que tout le monde vive très bien, le plus vite possible. C'est ça, écologiquement et pacifiquement. Il a inventé aussi le Dimaxion Omnitransport parce que lui voulait une voiture qui allait dans les airs, sous l'eau et à la surface. Puis il avait fait un prototype, mais on ne s'est pas encore arrivé. Bon, et puis il disait que nous avons besoin de 2 milliards de maisons présentement. T'sais. Et pour ça qu'il a inventé le Fly High Dome. À ses yeux, là je pense à Trump. Là. Trump qui dit, regardez, toi, on pourrait faire des autos parce qu'il y a des usines d'autos de fermer. Lui, Fuller disait que dans une usine d'auto fermée, tu pourrais les réouvrir en les réoutillant avec l'outillage de l'air spatial au millionième de pouce. Et là, au lieu de faire des autos, tu fais des maisons, son fly-high dome. Tu sors 2000 maisons par jour parce qu'il faut que tu loges 2 milliards d'humains. Tu sais. Ça comprend Sherbrooke, là. Il y en a 600 itinérants au moins, puis on aurait besoin de logements moins chers. Alors, son fly-high dome, il coûterait le coût d'un téléphone, peut-être 50 $ par mois. Et puis, il est autonome en énergie, presque autonome en nourriture, et il recycle ses déchets. Vous pouvez voir c'est le prototype dans son livre Critical Path. Malheureusement, ce n'est pas traduit en français. Et puis, qui ferait ça, le Fly-High Dome? C'est l'oligarchie économique mondiale. Bon, OK, c'est, on va dire, en gros, c'est des méchants, là. Mais ils pourraient percevoir, eux autres, que c'est dans leur intérêt de faire ça. Et puis, ce serait à l'avantage de tous et au désavantage d'aucun. Parce que pour l'ensemble des multinationales qui feraient ça, ils feraient 1 000 milliards de profits par année, juste à 50 piastres par mois par les humains, là. Et puis, blabla, c'est eux autres qui pourraient faire ça. Donc, et Fuller avait aussi pensé, avec sa carte d'Imaxion, disons, c'est une carte avec des triangles. Là. Supposons que la Terre est pliée, là, tu la déplies, puis elle est sur une surface plane. Puis là, tu peux voir que la Terre, c'est une île qui est entourée d'un océan d'air et d'eau. Fait que là-dessus, lui, il avait imaginé un réseau mondial de transport d'électricité. C'est à ça que je veux en venir. Moi, je pense que tous les pays auraient avantage avec ça, même les États-Unis et même la Chine. Ce sera à l'avantage de tous et au désavantage d'aucun, selon Fuller, et je crois que c'est vrai, de faire un réseau mondial de transport d'électricité. Ça prendrait toutes les énergies renouvelables, là, comme la marée, le vent, la lumière. Et puis, selon Fuller, seulement le vent, il y aurait 2000 fois trop d'électricité qu'on en a besoin. N'est-ce pas? OK. Fait que Fuller parlait de synergie. La synergie, c'est le comportement du tout qui est imprévisible à partir de la connaissance du comportement des parties, ou encore, ça veut dire le tout est plus grand que la somme des parties. J'avais pris des notes ce matin, là, mais bon, je pense que c'est ça à peu près. Puis il y a un autre point très important, mind et brain pour Fuller. C'est quoi la différence entre mind et brain, l'esprit et le cerveau? C'est que l'esprit se relie à tout ce qui est éternel. Exemple, les principes scientifiques éternels et le cerveau se relie à ce qui est temporel. Alors, je pourrais dire que ce dont on parle finalement dans la quotidienneté, c'est ce qui est temporel, c'est le brain, c'est le cerveau. Tu sais, toute l'affaire Trump, la guerre et tout, là, on pense au temporel et on se voit pas dans les relations éternelles. Une autre distinction qu'il a fait, vous savez qu'Einstein a dit E égale MC puissance 2, fait que la conversion de l'énergie en matière et inversement, ça c'est Einstein. Tout le monde connaît Einstein, à peu près personne connaît Fuller. Mais là, tu sais, il est quand même connu, il y a eu 45 doctorats honorifiques. Lui, il disait que univers, en parenthèse, il ne disait pas l'univers, parce que si tu fais l'univers avec un apostrophe, là, puis en anglais, the universe, tu le divises. Tu ne peux pas diviser l'univers, c'est un tout. Alors, univers, c'est la physique et plus la métaphysique. Ça veut dire l'énergie plus l'information. Alors, dans son livre « Utopia or Oblivion », il disait « L'énergie ne peut décroître et l'information ne peut que s'accroître. » Alors, à un moment donné, il va avoir assez d'informations pour traiter l'énergie de façon à satisfaire tous les besoins de l'humanité écologiquement et pacifiquement. Il disait ça à peu près en 1960 et en 1980, on était rendu. Il l'a dit dans son livre « Critical Path ». Il y avait assez d'énergie pour tout le monde. Pas besoin de guerroyer. Tout le monde pouvait très bien vivre. Et lui, il avait fait un plan pour y arriver et son plan, malheureusement, n'a pas été réalisé. On peut comprendre parce que je crois que c'est 1% seulement de l'humanité qui est au courant. Aujourd'hui, c'est peut-être 2-3%. Là. Et puis... ensuite, un autre point que Fuller disait, c'est que Malthus s'est rendu désuet. Malthus disait que il y aura toujours plus de population qu'il y aura de ressources. Donc, il va toujours avoir de la rareté, toujours de la pauvreté. Fuller a dit, Malthus, t'as plus raison. Actuellement, on a assez d'informations pour transformer nos ressources de façon à ce que tout le monde vive bien. Et Darwin, lui, en se basant sur Malthus, disait, c'est la survie du plus fort, tu sais, c'est le plus fort qui va survivre. Fuller disait, puisqu'il y a assez de ressources pour tout le monde, ce n'est plus la survie du plus fort, c'est la survie de ceux qui coopèrent, la solidarité. Et pour Marx, la lutte des classes, c'est les prédateurs qui allaient combattre les riches, fait que Marx, pour Fuller, était obsolète. Donc, est-ce que j'ai fini avec Fuller? Je pense que oui, là. Et puis, il est déjà 11h23, mais j'ai commencé 2 minutes en retard, mais on est rendu à la publicité. Fait que je vais y aller, puis on revient, d'accord? Rebonjour, Claude ici à Nous le futur. Là, j'appelle ça complétion. C'est-à-dire que je complète ce que j'ai pas eu le temps de finir la semaine dernière. C'est un petit texte inspiré du livre « Au pouvoir citoyen » de André Larocque. Quand la très large coalition anti-pauvreté a remis à l'Assemblée nationale une pétition de 220 000 signataires en faveur d'une loi anti-pauvreté, bien peu de monde était sensible au fait que si nous avions eu une loi d'initiative populaire, le projet de la coalition aurait obligé le gouvernement et l'Assemblée nationale à l'accepter, ou bien à faire face à un référendum, sur une question à propos de laquelle de nombreux citoyens militent dans le camp du « oui », alors que le gouvernement se serait retrouvé à la tête du camp du « non » pour l'abolition de la pauvreté. Aujourd'hui, l'initiative populaire figure dans le programme officiel du Parti québécois, de l'Action démocratique du Québec, du Parti vert, de l'Union des forces progressistes. Déjà en 1967, les États généraux du Canada français s'étaient prononcés favorablement. Aux États généraux sur la réforme des institutions démocratiques en 2003, c'est à 82% que les délégués ont exigé une loi sur l'initiative populaire. Il y a fort à parier que s'il y avait un référendum aujourd'hui sur la question, les citoyens s'accorderaient le pouvoir d'intervenir face à des institutions qui leur apparaissent de moins en moins crédibles. Malheureusement, la tâche d'introduire l'initiative populaire demeure dans les mains des partis politiques. Résultat, elle repose bien sagement dans leurs programmes officiels sans que personne n'affiche la volonté de l'incarner dans une législation. Alors, d'où la nécessité d'une réforme de la démocratie, ce dont je vais parler tout à l'heure, peut-être si j'ai le temps, sinon c'est pas grave, la semaine prochaine. Et bon, je rappelle que cette émission essaye d'imaginer radicalement un autre avenir. Alors, je vous donne un exemple de ça. Avec le livre « Réinventons le feu », écrit par le physicien Amory Lovins, l'expert en efficacité énergétique, un livre de 672 pages, il a été aidé par ses collègues du Rocky Mountain Institute, et nous l'avons à la bibliothèque. En français, c'est fantastique. Et vous ne le trouverez pas, parce que c'est moi qui l'ai en ce moment, j'achève là, de le lire. Mais il y a un résumé que j'aimerais vous lire. OK. Fait que, imaginez un monde sans réchauffement climatique, sans marée noire, sans air contaminé, sans terre polluée, sans perte de biodiversité, sans précarité énergétique, sans guerre du pétrole, sans déchets ni prolifération nucléaire. Imaginez un monde où l'énergie serait abondante, sans effets secondaires sur notre santé et notre environnement, bon marché, disponible pour tout le monde et partout. Ce monde plus riche et plus juste, plus sûr, est possible ici et maintenant. Dans « Réinventer le feu », Amory Lovins expose concrètement les moyens de basculer dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables pour chacun des grands secteurs énergivores. 2. Le transport, le bâtiment, l'industrie et la production d'électricité. En s'appuyant sur 30 années de recherche et de pratique, il montre que les entreprises motivées par le profit et encouragées par la législation peuvent conduire les États-Unis et le reste du monde à se passer complètement de pétrole et de charbon et de nucléaire d'ici 2050, tout en réduisant de façon drastique leur consommation de gaz naturel. Alors, tu sais, Trump parle d'un âge d'or pour les États-Unis qui s'en vient, en oubliant d'éliminer les dépenses militaires. Moi, je demande un âge d'or pour l'humanité. À nous le futur. Maintenant, nous sommes rendus à la pause familiale. C'est une innovation, parce que j'ai parlé l'autre jour, j'ai parlé ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, là, comme courir à côté du vélo, des choses comme ça. Fait que quand j'étais dans un collège à Ville-Marie, au Témiscamingue, très forte influence religieuse. Un petit exemple de ce que j'ai vécu. Nous allions voir un film de Ville-Marie à Lorrainville. C'est 5000 à pied. 3x3 sur le bord du chemin. Alors, on chantait le long du chemin, là, puis on allait voir le film La Tunique, un film religieux. Et moi, en arrivant au cinéma, il y avait les filles d'un collège, d'un couvent de Ville-Marie, à gauche, puis les gars étaient à droite. Et puis, moi, avant d'arriver à mon siège, j'ai fait une génuflexion. C'est ça ce qui est drôle, tu sais, parce que j'étais complètement, on va dire, endoctriné par la religion. J'étais automatisé. Fait que j'ai fait une génuflexion dans un cinéma à Lorrainville, quand j'étais à Ville-Marie, Témiscamingue. Et puis, une autre affaire un peu plus positive, c'est une citation de Réinventer le futur. C'est à la page 450. Comment satisfaire nos besoins futurs en électricité? Ça touche ce dont j'ai parlé au début là, avec Buckminster Fuller, le réseau mondial de transport d'électricité. L'idée n'est pas nouvelle. En 1952, la commission Paley avait prédit une pénurie de pétrole dans les années 70 et recommandé au président Truman de s'orienter massivement vers les énergies renouvelables. À ce sujet, Thomas Edison avait déclaré à Henry Ford dès 1931, deux points. Nous sommes tels des métayers abattant les clôtures autour de nos maisons pour trouver du combustible, alors que nous devrions utiliser les ressources inépuisables de la nature. Deux points. Le soleil, le vent, les marées. Trois points de suspension. Je miserais volontiers mon argent sur le soleil. Quelle source d'énergie! J'espère que nous n'attendrons pas de manquer de pétrole ni de charbon pour l'exploiter. Donc, c'est ça que disait Edison. Mais si je dis que c'est une histoire familiale, voici pourquoi. C'est que ma mère, elle vient de Kamouraska, puis c'était sur une ferme, puis elle n'aimait pas la ferme. Là. Son rêve, c'était de sortir de la ferme. Puis c'était surtout des filles, puis les filles, leurs parents, qui sont mes grands-parents, voulaient instruire les filles. Elles savaient que pour sortir de la misère, il fallait s'instruire. Ça ne veut pas dire quitter les fermes, parce qu'aujourd'hui, avec l'agroécologie, avec la permaculture, on peut être des docteurs en physique puis faire de la permaculture, là, puis être heureux sur une ferme. Ça fait qu'eux autres, ils ont quitté la ferme avec grand bonheur pour aller dans un couvent à Nicolette, s'instruire. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, la 11e année, c'était le maximum, puis ma mère a atteint le maximum. Fait qu'elle était instruite pour son époque. Et puis, nous avions une maison à Val-d'Or, une petite maison à logement, puis il y avait un animateur de radio de CKVD Val-d'Or qui demeurait en haut de chez nous. Puis évidemment, il se parlait beaucoup. Alors, ce voisin-là voyait que ma mère était instruite. Il a demandé à ma mère, qui a accepté, de faire une conférence à la radio sur Edison. Fait que c'est ça que je vous dis. Et ma mère a fait une conférence sur Edison. C'est pour ça que je viens de vous citer Edison. C'était une pause familiale. Puis là, imaginez, je passe aux nouvelles, tu sais, que j'ai vues là, cette semaine. Alors, premièrement, je reçois un bulletin de nouvelles de l'Association autochtone du Québec. Fait qu'il y en a une qui s'appelle « Le Québec nordique, enjeux, espace et culture ». Ça, c'est à l'Université Laval que ça va se passer. C'est un MOOC, M-O-O-C. C'est une initiative de l'Institut nordique. Puis un MOOC, c'est une formation en ligne ouverte. Ouverte à tous. Donc, c'est le Québec nordique, enjeux et espaces culturels. Puis, il va y avoir un souper qu'organisent les Autochtones à l'intention de tout le monde, y incluant les non-Autochtones. C'est au Centre d'amitié autochtone le 29... C'était hier, 29 janvier, tu sais. Néanmoins, je vous dis qu'ils sont très gentils d'inviter tout le monde. Et puis, il y a une autre affaire, c'est que vous pouvez plonger dans la culture inuite où les hiboux parlent, les chasseurs glissent sur la banquise et les phoques sont parfois des humains. Laissez-vous porter par votre imagination, écrire des histoires, inspirer des légendes et des personnages représentés dans les œuvres de Manasi Alpalapik à l'aide de photographies et de courts textes. Ça, ces informations-là, ça vient de l'Association autochtone du Québec. Autre nouvelle, le CPI, qu'est-ce que le CPI? C'est la Cour pénale internationale qui demande, qui fait un mandat d'arrêt contre les dirigeants talibans qui persécutent les femmes. Ça, c'est en Iran. Et puis, une petite seconde, comme autre nouvelle. Fait que ça vient de l'ONU, hein? Fait que vous pouvez vous abonner à ça. Je vous l'ai dit 45 fois. Le Soudan, le PAM, livre de la nourriture dans une ville clé pour tenter de stopper la propagation de la famine. Le PAM, c'est le Programme alimentaire mondial. Et puis, il y a un article de l'ONU toujours, c'est la jeunesse volée des enfants de Gaza. Une génération tout entière est traumatisée. Bon, c'est triste. Et puis, un livre aussi de Jean-Baptiste Fresoz. F-R-E-S-S-O-Z. Ça s'appelle « Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie ». Il est à la bibliothèque de la ville de Sherbrooke. Cherchez-le pas, c'est moi aussi qui l'ai en ce moment. Fait que je vais l'achever, là. Fait que il y a des YouTube. Hein? J'en ai vu un YouTube de 43 minutes de Jean-Baptiste Fresoz sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de transition et que ce qu'on croit être une transition, c'est comme une excuse pour mettre plus de pétrole. Et puis, aujourd'hui même, le 30 janvier à 17h30, il y a une visioconférence, ça s'appelle « Réinventer le vieillissement », c'est la fondation EPIC. Et puis, c'est la docteure Christine Gagnon, qui est neuropsychologue, et Yannouk Chalut, doctorante en neuropsychologie, qui essaie de nous dire qu'il faut réinventer le vieillissement avec des habitudes de vie pour un cerveau en pleine forme. J'espère que, tu sais, ça va être en même temps que le film sur Gaza ici, là, chez Brooke, là. Donc, j'espère qu'on va pouvoir le revoir. Et puis, comme autre nouvelle, le laboratoire d'agriculture urbaine fait une étude sur les conditions de succès du développement de l'agrotourisme urbain. Et puis, le réseau d'espaces verts éducatifs et nourriciers de Sherbrooke, le Rêve Nourricier, a une assemblée générale le 12 février. Allez voir ça, le Rêve Nourricier de Sherbrooke. Fait que moi, je vais y aller. J'espère que je vais vous voir là. Et Slow Food, vous connaissez ça sûrement, c'est un organisme international qui est voué à la nourriture juste, propre et délicieuse. Il y a deux textes, c'est « Mesurer l'impact, faire grandir un mouvement mondial, apporter un changement positif » et puis « Construire une génération en meilleure santé, les jardins scolaires se développent au Kazakhstan ». Fait que Slow Food, ça c'est encore là, c'est un bulletin de nouvelles gratuit. Vous pouvez vous abonner à ça, je vous le suggère. Et bon, ça, je vous l'ai pas mal tout dit, ouais, OK. Fait que, ouais, ça, j'ai dit ça, que l'État pétrolier et électrique, là. Et comme bonne nouvelle, tu sais, j'en reçois quatre par jour, là, je vous en donne juste une. C'est qu'il y a un homme qui est décédé, qui laisse en héritage la fortune de 10 millions de dollars à une petite ville française qu'il n'a jamais visitée. Fait que le maire est très content. Il a beaucoup de gratitude. Et maintenant, la loi 21, j'avais entendu parler de ça. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut contester le projet de loi 69. Et puis, il y a une autre loi qu'il faut supporter, la loi 21, la loi pour la laïcité de l'État. Elle est un peu mise en danger par la Cour suprême. Fait qu'il y a des articles là-dessus dans la presse. Et puis, je vais vous lire un article de Roméo Bouchard à ce propos-là, qui n'est pas content. C'est un ancien prêtre, hein, mais là, il est rendu laïc par-dessus la tête, comme nous tous, là. Alors, voici ce que Roméo Bouchard dit dans sa page Facebook. Laïcité québécoise. La meute canadienne anglophone n'allait pas rater l'occasion rêvée d'abaisser la nation québécoise et d'exercer sa tutelle face à cette autrefois, paradoxalement, priest-ridden province, la province qui n'a plus de prêtres, inapte au droit britannique. Bien sûr, la Cour suprême et le gouvernement canadien vont se mêler de décortiquer et juger la loi 21 et tenter d'édenter l'article 33 de la Constitution canadienne, écrite par les articles de la Charte des droits canadiennes. Et le malentendu est toujours le même. Le Québec n'est pas une province comme les autres, mais une nation qui existe depuis bien avant le Canada, qui a son histoire, sa culture et sa langue propre. Or, la laïcité de l'État et de la vie publique fait intimement partie de cette histoire et de cette culture de la nation québécoise. Ce n'est pas pour rien qu'aucun gouvernement ni référendum québécois quelconque n'ont ratifié cette constitution issue de Trudeau et de son parti, là je pense que c'est Trudeau père, qui ne nous reconnaît pas comme nation distincte, n'est-ce pas? Qui ne reconnaît même pas la souveraineté du peuple et n'a donc aucune légitimité démocratique. Une fois de plus, nous allons devoir nous soumettre à cette séance d'humiliation et de correction en conquis soumis. À moins que on les envoie tous chier et lécher les pieds de Trump. C'est dur à dire au micro, ça, là. Mais c'est ce qu'a écrit Romeo Bouchard dans sa page Facebook à propos du soutien que nous devrions faire à la loi 21 sur la laïcité. Maintenant, j'en suis à la orientation. Quelle orientation on devrait prendre? Là-dedans, il y a Hélène Keller, dont je vous ai parlé récemment, tout à l'heure. C'est développer les potentiels humains. Hélène Keller, qui est un symbole de développement des potentiels humains. Et puis l'ONU qui nous dit, 80 ans après la libération des camps de la mort, l'ONU appelle à s'accrocher à notre humanité commune. C'est ça, l'orientation. Et puis Équiterre, un bon article le 26 janvier 2025 à propos de l'augmentation de la température, le fait qu'on a franchi le cap des 1,5 degrés en 2024, là. Il y a un bon article là-dessus, je pense que vous devriez aller lire ça. Il faut s'orienter finalement à réduire les GES, à protéger nos milieux naturels, changer nos modes de vie, et puis voter pour des politiques climatiques ambitieuses. Soutenir les organismes scientifiques qui œuvrent dans la lutte contre la crise climatique, évidemment, incluant Équiterre. 11h50, c'est le temps de la publicité. Je reviens.